Quatrième temps de notre série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire en nouvelle diffusion. Aujourd'hui, une balade sur les lieux de la prostitution homosexuelle à la fin du 19e et au début du 20e siècle dans Paris. Depuis le début de cette semaine, nous vous avons parlé du contrôle des corps des jeunes filles au 19e siècle, c'était lundi, également de la prostitution, mais la prostitution hétérosexuelle avec le documentaire de mardi, et hier, de la libération sexuelle et du rapport Simon sur la sexualité des Français et des Françaises au début des années 1970. Aujourd'hui, nous vous proposons une balade radiophonique en compagnie de deux historiennes et historiens, Régis Revenin et Florence Tamagne. C'est une balade que nous avons enregistrée il y a très longtemps, c'était en 2005, une balade sur les lieux de rencontres homosexuelles à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle dans Paris, qui nous conduira sur les Champs-Élysées, qui nous permettra de comprendre peut-être aussi pourquoi la figure du marin, et en particulier du jeune mousse homosexuel dans la communauté homosexuelle depuis les années 70, est une figure importante. Régis Revenin y revient dans cette promenade, en particulier sur la prostitution le long des Champs-Élysées et dans les allées qui croisent justement cette grande avenue parisienne. Sabrina Attar, bonjour.
Bonjour.
Régis Revenin, bonjour. Vous venez de publier aux éditions de l'Harmattan, c'est le résultat de votre maîtrise, c'est ça ? Homosexualité et prostitution masculine à Paris entre 1870 et 1918. Et Florence Tamagne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié il y a déjà quelques années, c'était dans la collection Linéaire historique.
Tout à fait.
Au Seuil, donc, une histoire comparée de l'homosexualité entre trois pays, c'est cela ?
La France, l'Angleterre et l'Allemagne.
Alors, nous sommes, pour commencer cette promenade dans Paris, par un magnifique temps de début d'automne. Nous sommes du côté des Champs-Élysées et lorsque Séverine Attar vous a contacté en vous disant par où pourrait-on commencer, vous avez dit les Champs-Élysées, c'est important, Régis Revenin, puisque vous faites aussi une géographie de l'homosexualité dans Paris entre 1870 et 1918. Vous avez dit c'est important parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ces Champs-Élysées. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, nous, on est dans les contre-allées. D'un côté, on voit les restaurants, le Nôtre, le pavillon Gabriel, et un peu plus loin, chez Laurent. Qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là, en particulier de Paris, pendant ces années-là?
En fait, c'est le lieu de plein air le plus fréquenté par les homosexuels, et c'est aussi un lieu de prostitution masculine. Donc, en fait, c'est pas les Tuileries le lieu le plus fréquenté, c'est les Champs-Élysées, donc la partie boisée entre la Concorde et le rond-point. Voilà. De part et d'autre de l'avenue des Champs-Élysées.
Alors comment définit-on et sait-on cela? C'est-à-dire que vous avez, j'imagine, pour votre travail, utilisé les sources policières. Selon les sources, ce sont les sources les plus intéressantes et les plus importantes qui permettent de savoir cela.
C'était les sources qui avaient été les moins utilisées. La littérature avait été plus utilisée, les archives médicales. Mais il n'y a pas vraiment de fichage ou de géographie dans les archives et dans la littérature, donc les archives policières permettaient de faire une géographie, contrairement aux autres sources.
Florence Tamagne ?
Oui, et il faut préciser que ce travail a été rendu possible par le dépôt aux archives de la police, relativement récemment, de documents de la Brigade des Mœurs, auxquels on n'avait pas accès auparavant. Mmh. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que ça permet d'espérer que d'autres travaux pourront se faire, que tous les documents n'ont pas été encore mis à jour, et que petit à petit, au fur et à mesure des dépôts, on saura de plus en plus de choses sur à la fois les cultures homosexuelles, la répression de l'homosexualité en France et surtout à Paris avant 1945.
Ouais, juste pour poser un petit peu le sujet, vous, Régis Revenin, vous avez choisi donc de débuter votre travail de recherche à la fin du 19e siècle. Et ce n'est pas un hasard, vous-même, Florence Tamagne, vous en parlez dans votre introduction, c'est le terme même d'homosexualité qui prend une identité, pourrait-on dire, justement à la fin du 19e siècle. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de pratique homosexuelle bien avant, mais en tous les cas, socialement, culturellement, cette identité émerge à la fin, je crois, du 19e siècle.
Régis Revenin.
Le mot apparaît en 1869, en allemand, si je me souviens bien.
Tout à fait, oui, oui.
Dans le langage médical. Et par contre, on ne retrouve pas le mot homosexualité avant les années 1910. Il est même plutôt utilisé après 1945, en fait.
On lui préfère à cette époque-là, Florence Lamagne, le mot de pédérastie par exemple ?
Le mot de pédérastie, le terme d'aversion également, qui n'ont pas tout à fait le même sens, et on les utilise parfois pour différencier homosexualité passive, homosexualité active, mais cela reste assez confus, il n'y a pas de systématisation dans l'usage de ces termes. Il faut aussi noter la grande fréquence des termes argotiques, pédé, mais gouine aussi pour les filles. Je pense que le terme homosexualité est finalement réservé encore pour la Belle Époque à un usage scientifique, peut-être un usage littéraire est encore très très peu répandu.
Alors si on essaye de décrire cet endroit tel qu'on peut se l'imaginer d'après les sources que vous avez pu consulter, Régis Revenin, pour l'instant donc journée d'automne, je le disais, des parterres, des pelouses, des arbres, les voitures évidemment qui sont le long soit sur l'avenue Gabriel, soit de l'autre côté sur les Champs-Élysées, les pratiques, la façon dont ça se passait, qu'est-ce qui se disait, comment se rencontrait-on, est-ce qu'on a connaissance justement des divers moyens dont la drague homosexuelle, la façon de se comporter ici se tenait entre 1870 et 1900, par exemple, Régis Revenin. Est-ce qu'on a quelques possibilités pour cerner cela ?
Pas de manière extrêmement précise. Ce qui est clair, c'est que c'était nettement plus boisé que ça ne l'est maintenant. Et donc, il n'y avait pas de pelouse, des choses comme ça. Et donc, il était plus simple derrière des arbres d'avoir... Le but, c'était d'avoir des relations sexuelles, puisqu'il était impossible de recevoir... chez soi, le but c'est d'avoir des relations sexuelles en fait, voilà, dans un parc et les Champs-Élysées, c'était l'idéal puisque c'était un endroit très boisé. Quoi.
Florence Tamagne ?
Oui, en fait, bon, la drague dans les parcs, c'est quelque chose qui est lié à la fois aux contraintes de la répression, qui est lié à des contraintes économiques. Quand Régis dit on ne pouvait pas recevoir chez soi, c'est notamment le cas pour des homosexuels issus des classes populaires qui partagent parfois des logements, qui vivent dans des chambres louées et qui sont surveillés tout simplement par les allées et venues des voisins et ça attirerait l'attention de voir passer des partenaires. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement la même situation en Angleterre à la même époque. Hyde Park, par exemple, est le principal lieu de drague homosexuelle.
Il y a d'autres bois ou parcs, ou même vous parlez de squares, qui sont comme ça fréquentés aussi par les homosexuels. Enfin, je pense il y a le bois de Vincennes, vous parlez aussi du Champ de Mars, je crois. Enfin,
les Tuileries, oui, ils sont fréquentés quand même. Il y a le Luxembourg, dans une moindre mesure. Il y a effectivement le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Le bois de Vincennes, en fait, c'est un lieu de prostitution masculine de militaires. On vient chercher des militaires dans le bois de Vincennes, puisqu'il y a la caserne. Et puis sinon, il y a pas mal de petits squares, en fait, qui sont plutôt des lieux de proximité dans tous les arrondissements centraux, donc 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement, le 9e aussi.
Et vous notiez aussi, je crois, Régis Revenin, que les Champs-Élysées, c'est quand même fréquenté par la haute société parisienne. Et donc là, il y a une sorte aussi de mixage social.
Florence Tamagne.
Oui, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les forces de police. Justement, cette mixité sociale, le passage des frontières, le mixage des classes. C'est une inquiétude que l'on retrouve. Et bien souvent, l'objectif des forces de police, au-delà de la simple répression de manifestations visibles ou à la pudeur par exemple, ça serait plutôt de ramener les manifestations homosexuelles aux marges, donc pas aux Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est finalement un lieu de visibilité et également une image pour la capitale. Donc petit à petit, on voit bien que si on retrouve des bars plutôt dans des quartiers périphériques, à Montmartre, à Montparnasse, etc., ça vient aussi finalement de ce repli de la culture homosexuelle avec d'autres marginalités, avec la prostitution, avec les milieux de la drogue, avec les milieux de la criminalité.
Alors, on évoquait ce lieu comme lieu de passage. Vous évoquez assez longuement, Régis Revenin, dans votre travail, la question des urinoirs aussi. Mmh. On est à deux pas donc, d'un de ces urinoirs qui était célèbre ici même. Les urinoirs qui sont des lieux de sexualité aussi masculine, donc, et qui sont très particuliers et aussi, j'imagine, extrêmement surveillés par la police.
Mmh, bien sûr, oui. Ben, en fait, c'est le moyen d'avoir une sexualité rapide qui coûte rien, puisque... Contrairement à un établissement de bain ou à un bar, il faut payer. Là, c'est gratuit. Et voilà, quoi. Donc ça permet en plus de se cacher. Donc on a toujours le prétexte de dire j'étais pas là pour avoir des relations sexuelles, mais j'étais là pour uriner. Donc voilà, ce qui n'est pas possible quand on est en train de se balader, que manifestement on drague, c'est pas possible d'échapper à l'outrage public à la pudeur si on a des relations sexuelles dans ce cadre-là.
Ça veut dire que si on rajoute cette dimension-là à la dimension des parcs, on a un deuxième réseau avec les urinoirs, un troisième avec les bains, un quatrième réseau qui font effectivement une géographie complexe de la ville de Paris, de la façon de vivre sa sexualité quand on est homosexuel à la fin du 19e siècle, Régis Revenin ?
Mais en fait, je pense que c'est l'époque où naît la modernité homosexuelle, c'est-à-dire que ce que l'on connaît aujourd'hui, ça existait déjà à l'époque. Bon, évidemment, il y a des changements musicaux, il y a même les backrooms qui sont. On a l'impression que c'est un phénomène qui est moderne.
Oui, alors on découvre effectivement
très, très que moderne,
les backrooms
et en fait,
sont pas une invention de.
Ça existe déjà, donc c'est une arrière-salle d'un bar, c'est une pièce isolée dans un établissement de bain qui sert de backroom en fait, et de pièce complètement noire.
Oui, à propos des urinoirs, simplement, ce qui est intéressant, c'est la manière dont finalement les homosexuels parviennent à créer un espace à eux dans un lieu qui est un lieu mixte. C'est-à-dire que ceux qui fréquentent les urinoirs peuvent être des homosexuels, mais pas forcément. L'intérêt ici de l'urinoir, c'est qu'à l'époque, ce sont des urinoirs ronds avec généralement trois stalles. Et quand on s'installe, l'échange de regards, la durée finalement du passage dans l'urinoir peuvent permettre de deviner plus ou moins les intentions évidemment de l'homme qui est présent là. Bon, en même temps, la question de la surveillance policière est aussi intéressante parce que moi j'ai vu davantage le cas pour l'Angleterre, mais peut-être que Régis pourra le confirmer, certains policiers qui sont justement assignés à la surveillance des urinoirs pour tenter de forcer un petit peu le destin et faire des arrestations ont tendance à jouer eux-mêmes les agents provocateurs. Donc on a des affaires qui mettent en cause des policiers qui se sont eux-mêmes conduits de manière soit indécente, soit compromettante à l'intérieur de ces mêmes urinoirs.
Ouais, effectivement, quand on a été dans sa jeunesse spectateur des Brigades du Tigre, on imagine assez mal les gens des Brigades du Tigre en train de venir ici du côté des urinoirs des Champs-Élysées pour pouvoir mettre le grappin sur des homosexuels. Mais qu'est-ce qu'on risquait à la fin du 19e siècle, justement entre 1870 et 1900, si on était pris en tant qu'homosexuel, soit en train de draguer, soit en train d'avoir des relations sexuelles? Qu'est-ce qui se passait exactement? Quel était l'état de la législation, Régis Revenin, dans cette période-là spécifique de l'histoire de France?
Contrairement à l'Allemagne et à l'Angleterre, l'homosexualité en France n'est pas pénalisée. C'est supprimé en 1791. Et donc, il faut passer par des biais légaux pour pénaliser l'homosexualité. Donc, c'est pas l'homosexualité en tant que telle qu'on pénalise, mais la forme que ça prend, donc l'outrage public à la pudeur, l'excitation de mineurs à la débauche, donc c'est le fait d'avoir des relations, ou d'accueillir, même pour certains tenanciers de bar, d'accueillir des mineurs. Donc ça, c'est un détournement de mineurs, en quelque sorte, on pourrait dire. Donc voilà, c'est pas l'homosexualité en tant que telle. Et donc, il y a toujours, dans les archives de police, des policiers qui se plaignent du fait que c'est très dur de réprimer, que les descentes de police sont très délicates à opérer, et encore plus dans les établissements de bain, puisqu'il faut que les policiers se fassent passer pour des clients. Et là, ça devient très compliqué, et ça gêne leur propre pudeur.
Mais ça veut dire néanmoins que le législateur ne met pas en place, alors qu'il y aurait ou pas de demande sociale, d'une certaine façon, de répression, ne met pas en place les lois qui lui permettraient de mieux réprimer. C'est-à-dire qu'on utilise des lois en contournant ou en allant dans la marge de ces mêmes lois pour pouvoir mettre en place cette répression.
Je pense que ce qui est important ici, c'est la question du privé. Et donc, ce qui gêne la législation française, ce ne sont pas les actes commis en privé. Et il y a véritablement une indifférence réelle à la question de l'homosexualité du point de vue de la législation, à condition qu'il s'agisse de pratiques intimes qui ont lieu, par exemple, dans un lieu privé, dans un appartement, etc. Le problème majeur, c'est la visibilité de l'homosexualité. Donc, tout cet appareil législatif ne vise pas l'homosexualité en tant que telle. Il peut s'appliquer aussi bien à des relations hétérosexuelles, à l'exhibitionnisme, à la prostitution féminine, mais il s'agit de maintenir finalement une apparence de respectabilité. Ceux qui enfreignent cette législation peuvent subir une sanction. L'outrage public à la pudeur, c'est très variable, ça peut être une simple amende, ça peut être une peine de prison qui va de 3 mois à 2 ans dans les cas les plus graves. Donc il n'y a pas une législation spécifique. Par contre, certaines catégories sont davantage susceptibles que d'autres de tomber sous le coup de cette loi. Les fameuses, la classe ouvrière, les petits employés, etc., qui vont draguer justement dans les lieux extérieurs. Également, les homosexuels, peut-être plus aisés, mais qui, par goût, choisissent de draguer dans les parcs, dans les urinoirs, sont les cibles privilégiées de cette répression.
Mais ça veut dire néanmoins qu'on garde de cette période-là l'image d'une période victorienne, même si on applique de façon un peu exagérée, on calque ce qui se passe en Angleterre sur la France, et surtout on garde de cette période-là l'image du procès d'Oscar Wilde, par exemple. C'est totalement inimaginable dans ces années-là en France, à la même époque, Florence Tamagne ou Régis Revenin, un procès comme celui d'Oscar Wilde.
Il y a, ce n'est pas un équivalent, donc c'est difficile d'en parler. Vous avez l'affaire du comte Adelswald Fersen, par exemple, qui est mis en cause. Pour éphébophilie, voilà. Mais alors là, le cas est extrêmement particulier, puisqu'il s'agit cette fois-ci de relations avec des mineurs, que ce sont des lycéens du lycée Condorcet qui sont mis en cause. Bon, je pense que là, ça a vraiment un lien davantage avec tout ce qui est corruption de la jeunesse qu'avec l'homosexualité en particulier.
Et en même temps, ils ne sont pas sexuellement mineurs. Ils sont mineurs civilement, mais pas. Ils ont plus de 13 ans. Donc on ne peut pas dire que ce soit de la pédophilie au sens où on l'entendrait aujourd'hui, même si c'est complètement anachronique de parler de pédophilie à l'époque. Donc oui, c'est aussi oui parce qu'ils fréquentent des mineurs. Et ça, c'est vraiment une obsession. Dans les archives de police, on le voit, c'est une obsession dès la fin du 19e siècle, effectivement.
Alors nous allons peut-être quitter avec Séverine Yatard et vous-même, Florence Tamagne et Régis Revenin, ce côté un peu bruyant des Champs-Élysées, en espérant trouver un endroit un peu moins bruyant du côté de la rue de Penthièvre, juste pour nous expliquer pourquoi nous allons rue de Penthièvre en deux petits mots, et on expliquera sur place.
Rue de Penthièvre, c'est un bain qui est un bain homosexuel qui est très fréquenté à la fin du 19e siècle, et donc il y a un scandale important en 1891 là-bas.
Nous y retrouvons.
Les surveillances exercées dans l'établissement de bains situé rue des Rosiers 4 ont permis d'établir que cet établissement sert de refuge à des pédérastes. Il a été constaté qu'une douzaine d'individus se tenaient dans la chambre de fumigation, se livraient entre eux à des actes contre nature. Un individu, notamment, suça la verge à 4 autres, puis, tandis qu'il procédait à la même opération sur un cinquième personnage étendu sur le dos, lui-même subissait le coït rectal. Pendant ce temps, ceux qui n'étaient pas intéressés à cette scène se masturbaient et s'embrassaient entre eux. Rapport du police du 19 mai 1915, archives de la préfecture de police.
Voilà, on est au 30 rue de Penthièvre. Alors, qui n'est pas célèbre, du moins c'est la plaque qui a sur sa façade, ne célèbre pas l'existence des bains ici même, mais plutôt celle de Jacques Tati, qui a habité cet immeuble jusqu'en 1958. C'est ici qu'il a écrit son premier long métrage, Jour de fête. Voilà. Alors voilà effectivement la cour que vous aviez vue décrite dans les comptes rendus de police. Donc on essaye de passer la grille, mais c'est difficile dans un quartier comme celui-ci. D'ailleurs, pas simplement dans le 8e, mais dans tout le reste de Paris, c'est difficile de passer les grilles maintenant. Mais enfin, on voit à travers cette grille, justement, la cour intérieure dans laquelle il y avait les bains de Penthièvre. Donc, Régis Revenin, Florence Tamagne. Alors, ces bains de Penthièvre sont célèbres pourquoi d'abord, et pourquoi sont-ils restés dans l'histoire de cette période, justement, et de l'homosexualité à Paris?
Alors en fait, donc c'est un établissement qui est très fréquenté à la Belle Époque. Et en 1891, suite à un fichage assez régulier de la police des mœurs parisiennes, il y a une descente de police en 1891. Et il y a, ce qui est très rare à l'époque, arrestation de plusieurs homosexuels, donc ils sont en train d'avoir des relations sexuelles dans l'établissement.
Alors, l'établissement de bains de vapeur tenu par le sieur Dupuis, rue de Penthièvre au 30, mais ayant été signalé comme étant le rendez-vous de pédérastes qui s'y livreraient à des actes obscènes, j'y ai fait exercer récemment, de 3h à 6h du soir, une surveillance qui a donné lieu aux constatations suivantes. 15 clients étaient présents, ils se tutoyaient et tutoyaient également les garçons qui les connaissaient tous. Ces individus, dont plusieurs ont paru être des valets de chambre et des domestiques, avaient tous des allures de pédérastes. Des allures de pédérastes, on pourra commenter leur langage, leur tenue, leur affectation à montrer leur nudité et les appellations qui se prodiguaient entre eux, telles que ma chère, ma fille, cochonne, etc., ne laissaient aucun doute à cet égard. Florence Tamagne, quand on tombe sur un document comme celui-ci, on a non seulement un document de police classique, pourrait-on dire, mais on a aussi un document qui nous enseigne quelques petites façons de se comporter aussi des homosexuels, même si c'est par le truchement d'un policier.
Oui, mais en même temps, je trouve que ce document révèle d'autant plus sur la manière dont on se représente l'homosexualité à l'époque que sur les homosexuels eux-mêmes de ces bains. C'est-à-dire qu'on a surtout finalement une représentation qui peut être en partie véridique, mais aussi très stéréotypée, où l'homosexuel est pensé comme l'inverti. Donc au sens véritablement de la théorie du troisième sexe, cette théorie qui avait été surtout popularisée par le sexologue allemand Magnus Hirschfeld, l'homosexuel aurait une âme de femme prisonnière dans un corps d'homme, et l'homosexuel doit présenter forcément des signes d'efféminement, voire de travestissement. On est supposé le reconnaître justement à toute une série de signes distinctifs, le maquillage, le vêtement voilé.
Le caractère efféminé.
Voilà, oui.
Mais en même temps, ça n'enlève rien, par exemple, à ces interjections qui, est-ce qu'elles ont été rêvées ou est-ce qu'elles sont réelles et qui peuvent peut-être nous servir à voir comment on s'interpellait. Je ne sais pas, est-ce que je me trompe ou est-ce que tout ça, c'est un code selon vous, Florence Tamagne?
Il y a une partie de code. En même temps, l'utilisation du féminin est tout à fait attestée à cette époque, mais aujourd'hui encore dans certaines parties de la culture homosexuelle. Donc tout cela est tout à fait sans doute vraisemblable. Il y a des manières de se parler qui sont propres, je pense, aussi à l'établissement de bains, c'est-à-dire que l'on cherche à nouer des relations. On cherche à séduire des partenaires, il y a une part de codes qui sont des codes érotiques.
Bah écoutez, on va essayer, puisqu'on a réussi à se faire ouvrir la grille, on va essayer de rentrer dans la cour, justement. Sans faire trop de bruit, nous passons sous le porche, et nous arrivons donc dans la cour. Une petite cour tranquille de l'intérieur du 8e arrondissement. Et ça devait être dans un de ces bâtiments bas, donc classique, relativement classique. On a à droite un petit bâtiment Louis-Philippard, des grilles, et un bâtiment de 4 étages de l'autre côté. C'est peut-être même dans ce petit bâtiment, Régis Revenin, que ça se tenait, ces bains, ça pourrait être ici. Donc,
c'était a priori au rez-de-chaussée, d'après les archives de police, mais ça demanderait vérification aux archives départementales pour être bien sûr du lieu exact. Mais...
Alors, en revanche, ce qu'on peut savoir, c'est que malgré cette descente de 1891 qui les ont rendus célèbres, ces bains de Penthièvre, ils ont continué à fonctionner bien plus tard.
Et ils sont toujours fichés par la police, par les mêmes policiers qui ont fait la descente. Et donc, l'établissement ferme dans les années 1960 ou au début des années 1970. Donc, c'est un établissement qui a duré extrêmement longtemps.
Il y a beaucoup de bains, en fait, aussi, à l'époque... Oui. On parlait rue Oberkampf dans le 11e, ça me vient comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres.
Ouais. Les bains d'Angoulême.
Voilà, il y a une dizaine de bains en fait à la Belle Époque à Paris, de bains qui sont spécifiquement homosexuels.
Et est-ce que dans la littérature on fait allusion aussi aux bains, pas comme lieu à la fois d'homosexualité ou de séduction en général? Je ne sais pas, la littérature française, mais pas seulement, peut-être Florence Tamagne.
Proust y a fait des oui, allusions. Pour les périodes plus tardives, au-delà des bains, Daniel Guérin, par exemple, évoque pas mal les lieux de rencontre, que ce soit les bains ou les piscines. Également, c'est quelque chose qui l'a encore à perdurer. Il peut parler aussi bien de la piscine, de l'union de la jeunesse YMCA, chrétienne. Ouais. Il parle de la piscine pontoise, où on s'enferme à deux dans les cabines, des piscines où on peut se baigner nu. Donc voilà, donc ce sont des lieux qui sont susceptibles d'être fréquentés par une clientèle homosexuelle. C'est ça aussi, je crois, qui est intéressant, c'est-à-dire que certains lieux sont investis, soit à certains moments de la journée, soit définitivement comme les bains de Penthièvre. C'est une manière de gagner finalement sur la ville des espaces de reconnaissance, de rencontre.
Mais en même temps, avec une particularité qui est une sorte d'éparpillement sur l'ensemble de la ville des lieux de rencontre, justement, puisque vous notez par exemple que plus tard Montmartre deviendra un haut lieu, mais qu'il ne l'est pas encore à la période sur laquelle
c'est plutôt un lieu bohème, en fait.
Voilà, à l'époque sur laquelle vous travaillez, mais néanmoins que c'est une sorte de saupoudrage, pourrait-on dire, des lieux de rencontre homosexuels sur l'ensemble de la cité, dans des quartiers qui sont peut-être plus spécialisés, comme le 9e, on y viendra un peu plus tard, mais néanmoins avec une sorte d'égalité ou presque dans beaucoup de quartiers.
En réalité, les arrondissements à deux chiffres comprennent très peu d'établissements homosexuels à l'époque, et c'est particulièrement effectivement autour de la Bourse et du Faubourg Montmartre qu'il y a concentration de lieux, enfin, d'établissements homosexuels, donc comme les bistrots, les restaurants, les cafés, des choses comme ça. Mais effectivement, les établissements de bains sont répartis un petit peu partout dans Paris, dans le 8e, dans le 9e, dans le 2e.
Et l'origine des personnes qui sont par exemple arrêtées dans ces PV que vous avez pu consulter, elle aussi est assez variée. Ils ne sont pas spécialement installés dans un quartier ou dans un autre.
Non, il y a un petit peu. Alors c'est ce qui donne lieu, en fait. C'est important aussi pour ça, le scandale des bains de Penthièvre, c'est que ça donne lieu à une campagne de presse qui est vraiment très féroce pour dénoncer, ce que disait Florence Tamagne tout à l'heure, la mixité sociale, la mixité des races aussi, le supposé cosmopolitisme et l'internationalisme homosexuel.
On peut dire qu'on est vraiment en pleine période de fin de siècle et que, par exemple, la France juive de Drummond est aussi le grand journal de cette période-là, et qu'effectivement, à partir de ce moment-là, il y a aussi ce lien qui peut être fait entre le cosmopolitisme, l'homosexualité. Florence Tamagne.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on imagine déjà que l'homosexualité peut être acquise, qu'elle peut être contagieuse à certains degrés, et qu'elle est très souvent importée. C'est-à-dire qu'on imagine mal que l'homosexualité puisse être française. C'est une importation, et c'est toujours une importation venue d'un étranger plus ou moins menaçant. Donc pour les Français, l'homosexualité, c'est le vice allemand au début du siècle. Ça a été renforcé par des scandales, pour le coup, fameux en Allemagne dans les années 1907-1908. Il y a ce qu'on appelle l'affaire Eulenburg, où l'entourage du Kaiser lui-même a été mis en cause, ainsi que les milieux militaires. Donc il y a toutes sortes de scandales de prostitution homosexuelle dans l'armée allemande. Et Proust lui-même y fait allusion. Donc cette idée du cosmopolitisme, de l'internationalisme, du mélange des races, elle est très prégnante. Elle alimente aussi toutes sortes de fantasmes, notamment sur l'idée de l'homosexuel traître à la patrie, ouais, que l'on va retrouver pendant la Première Guerre mondiale.
Et en même temps, Florence Tamagne, il y a une littérature fondée sur l'archéologie, fondée sur ce qu'explique Régis Revenin, fondée sur l'archéologie, fondée aussi sur une découverte du passé qui met en avant Babylone, qui met en avant tout un tas de visions assez rêvées, pourrait-on dire, totalement reconstruites de ce que pouvait être la vie dans les périodes les plus antiques, et en particulier qui met en avant aussi Sappho pour l'homosexualité féminine, qui d'un seul coup redonne une actualité, une présence littéraire en tous les cas à des personnages remontant à très très loin dans le temps.
C'est une question en fait d'identification, c'est-à-dire que la plupart des représentations de l'homosexualité dans la presse, dans l'opinion publique, sont des représentations négatives. Donc dès le milieu du XVIIIe siècle, vous parlez de l'Antiquité, on peut citer Winckelmann par exemple, toutes ces théories sur le beau idéal et sur la Grèce, ont joué un rôle dans la construction d'une identité homosexuelle qui soit une identité homosexuelle valorisée. Donc on recherche, on le trouve retrouve très souvent dans les ouvrages de l'époque, des ancêtres fameux, des ancêtres glorieux, qui permettent en fait de jouer un espèce de contrepoint face aux représentations extrêmement péjoratives, aux stigmates qui en courent. Donc la Grèce antique, Sparte, vont être notamment rappelés par André Gide, mais par d'autres aussi. En Angleterre se développe toute une vision très esthétique de l'homosexualité. On arrive même parfois à des changements complets de perspective, c'est-à-dire que l'homosexualité masculine est survalorisée, ça induit d'ailleurs parfois une misogynie tout à fait prégnante. De l'autre côté, un certain nombre de lesbiennes également cherchent à retrouver des traces de leur passé. Vous parlez de Sappho, Nathalie Barnet, dont on ira voir tout à l'heure le salon, enfin le lieu où se trouvait son salon, part en 1904 en pèlerinage véritablement à Mytilène avec sa compagne Renée Vivien. Donc on a cette quête de racines, on a cette quête de modèles valorisants pour les homosexuels.
Et d'antériorité.
Ça leur permet aussi d'acquérir une certaine légitimité au niveau de cette identité par rapport à la société.
Tout à fait, mais il faut aussi bien tenir compte du fait qu'il s'agit de modèles qui sont des modèles intellectuels. C'est-à-dire que c'est valable, je pense, en effet, pour la frange, qui est déjà la frange la plus visible des homosexuels, pour ceux qui sont les mieux intégrés, pour ceux qui ont la possibilité de se référer à une éducation classique. Est-ce que c'est véritablement un modèle pour les homosexuels qui fréquentent les bains de Penthièvre, c'est moins sûr.
Alors nous allons quitter justement ces anciens bains de Penthièvre pour aller tout près d'ici à deux ou trois rues de là, c'est rue de l'Arcade.
Rue de l'Arcade.
Voilà, alors on quitte cet endroit et on file un peu plus loin vers la gare Saint-Lazare et relativement près de ce 9e arrondissement dont vous avez parlé tout à l'heure, Régis Revenin.
Moi je connais trois petits jeunes gens qui sont ma foi tout plein charmants. Tous les trois sont beaux, 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 beaux. C'est patata, titi-toto, titi-toto et patata. Font des petites manières et marchent toujours comme ça. Ils poussent des ou, ils font des ah, oh, des chichis, des esbroufs et des tas de fla-fla. Il faut les voir sur le boulevard, tortiller gentiment en faisant des petits pas. Titi-toto et patata, tata, titi-toto, toto, titi, c'est toi.
De la part des habitants de la rue de la Bourse et du quartier, je viens vous informer de ce qui se passe dans l'hôtel de Madrid, rue de la Bourse. Le jour et la nuit, c'est un va-et-vient scandaleux de jeunes gens, de militaires. Personne dans la rue de la Bourse et aux alentours n'ignore ce qui se passe dans cet hôtel de Madrid. Le propriétaire, Paul, procure à ses clients des militaires et des jeunes hommes. Tout le monde connaît les prix et les clients paient pour la procuration et le patron de l'établissement retient 2 francs par 10 francs aux jeunes gens qu'il a procurés. Tout le monde sait cela, et les gens de ces parages appellent l'hôtel de Madrid le bordel d'hommes. Lettre signée des habitants de la rue de la Bourse du 27 juillet 1913.
Donc nous voilà arrivés maintenant rue de l'Arcade, troisième période de notre balade dans Paris, donc sur les lieux de l'homosexualité entre 1870 et la guerre de 14, la fin de la guerre de 14. Alors on est rue de l'Arcade, donc un quartier encore du 8e arrondissement. Pourquoi avez-vous voulu nous amener dans cette rue de l'Arcade, Régis Revenin ?
Alors là, en fait, on est au numéro 11 donc, de la rue de l'Arcade, Hôtel Marigny, et ça n'a pas changé de nom. C'est là où, lors d'une descente de police en 1918, on trouve Marcel Proust en compagnie de soldats en train de boire du champagne. Donc, c'est officiellement un hôtel, mais en réalité, c'est un bordel, qui est tenu par Albert Lecusia. Et Proust reprend, en fait, dans la recherche... l'hôtel Marigny et ça devient effectivement le bordel de Jupien, enfin le bain de Jupien. Voilà. Donc c'est sans doute ce qui l'a inspiré.
Alors, ce qui est intéressant aussi, ce que vous notez, Régis Revenin, puis vous en parlez aussi dans votre thèse, Florence Tamman, c'est les militaires, l'homosexualité chez les militaires, à la fois fantasme, mythe, réalité.
Florence Tamman.
Oui, en fait, il y a une fascination de l'uniforme que l'on retrouve, pas seulement chez les homosexuels à la Belle Époque, de certains uniformes en particulier. Pour l'Angleterre, c'est les soldats de la garde. En France, c'est surtout l'uniforme de la marine qui déclenche vraiment le plus de fantasmes. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des soldats, des marins que l'on retrouve dans des situations compromettantes pratiquent en fait une espèce de prostitution occasionnelle. En tout cas, l'immense majorité d'entre eux ne se dit absolument pas homosexuels, ont d'ailleurs souvent une famille, des enfants, etc. C'est qu'ils tentent de tirer profit de l'attraction qu'ils suscitent, que le temps des permissions est également un moyen pour eux de se faire un petit peu d'argent supplémentaire. Donc on a les soldats, on a les marins. À Paris, on peut les trouver dans certains lieux, donc dans des bordels par exemple. On les retrouve aussi dans certains bars, dans certains quartiers. Là, on n'est pas du tout dans le quartier, mais à Bastille notamment, il y a pas mal de bars et de dancing qui accueillent des marins en permission. Et les hommes dansent entre eux. Et il y a pas mal de témoignages qui montrent qu'en effet, la marine était assez ouverte à ce type de pratique. Certains prostitués qui n'étaient absolument pas militaires faisaient l'acquisition d'uniformes, justement, pour augmenter leur chance
leur
capacité de séduction. Donc bon, ça crée des inquiétudes évidemment extrêmes dans les milieux militaires, parce qu'on est inquiet à la fois du scandale. Donc on est inquiet du scandale, on est inquiet évidemment de la réputation, l'honneur de l'armée est en jeu. Les marins ou les soldats qui sont arrêtés risquent des sanctions extrêmement lourdes.
Régis Revenin, ce qui prouve qu'on aurait tendance toujours à rendre beaucoup plus contemporains les figures, ou contemporaines, les figures de la séduction homosexuelle. On évoquait tout à l'heure les urinoirs, les glorioles ou tout un tas d'autres moments comme cela, mais tout compte fait, Tom de Finlande peut aller chercher des références un peu plus anciennes, effectivement, puisque Tom de Finlande, grand dessinateur d'homosexuels, les grands dessinateurs de marins, n'est pas si original que cela, d'une certaine façon, Régis Revenin.
Oui, en fait, tout naît à la Belle Époque. C'est l'entrée, enfin, à mon sens, c'est l'entrée dans la modernité et de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Naissance, entre guillemets, de quartier gay à la Belle Époque, même si c'est pas tout à fait comme aujourd'hui, mais c'est vraiment à cette époque-là qu'émerge une subculture homosexuelle.
Alors, justement, puisqu'on parle de cette subculture homosexuelle et de ces quartiers gays, on ne va pas s'y rendre, mais on est à deux pas maintenant du 9e arrondissement, c'est juste à deux ou trois rues d'ici. Vous avez déterminé par une sorte de sondage très précis, une statistique très bien faite dans votre travail, Régis Revenin, que le 9e arrondissement était le quartier le plus homosexuel de Paris, donc à la Belle Époque. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez trouvé quelques raisons à cela, ou est-ce que c'est un peu un hasard, ou est-ce qu'on peut aller au-delà de ce constat chiffré, justement, du fait que à la fois le nombre des établissements, mais également donc 9e et 2e arrondissement qui se côtoient sont très proches en nombre, justement, le nombre des établissements, mais peut-être aussi autre chose, Régis Revenin.
On peut penser que c'est deux arrondissements où il y a énormément de galeries et de passages, et que avant la Troisième République, c'était des lieux de drague homosexuelle assez traditionnels. À la même époque, c'est l'endroit où il y a le plus de maisons de tolérance. Donc on peut penser qu'on se dit, c'est des quartiers peut-être plus tolérants, plus ouverts, et voilà, on s'installe dans ces lieux-là plus facilement que dans des quartiers plus bourgeois ou plus résidentiels.
Et puisque vous parlez de bordels, Régis Revenin et Florence Tamagne, il existait des bordels spécialisés justement pour homosexuels, ou est-ce que c'était quelque chose de plus diffus, justement dans ce type d'hôtel où on pouvait se retrouver, mais sans que ce soit évidemment inscrit sur la façade?
Ah ben non, c'était absolument jamais inscrit. L'hôtel Marigny, ça passe toujours pour un hôtel, et en fait, clairement, quand le tenancier est interrogé par la police, le tenancier dit que ça lui permet des rentrées d'argent supplémentaires et que donc voilà pourquoi il le fait. Mais c'est jamais officiellement un bordel, c'est toujours un hôtel démeublé qui peuvent être loués à la journée ou pour quelques heures, quoi.
Et puis voilà, alors, une statistique intéressante qui paraît étrange, mais à laquelle vous donnez une explication: 13% des arrestations dans les urinoirs des années 70 se déroule à l'urinoir de la Bourse. Alors, vous expliquez que c'est parce que ce quartier est un quartier particulièrement vide le soir, en particulier, absolument, une fois qu'on a quitté les bureaux, et que c'est peut-être plus facile de venir draguer ici. Enfin, ça, c'est effectivement une statistique qui peut laisser un peu pantois.
Mmh. En fait, cette statistique, elle n'est pas directement de moi, c'est un travail d'un Américain qui s'appelle William Penniston, qui a fait une thèse sur le sujet, et qui a travaillé sur des registres de la police également.
Oui, Florence Tamagne.
On peut peut-être suggérer aussi que le quartier de la Bourse est relativement proche du Palais Royal et que le Palais Royal était, depuis le XVIIIe siècle, l'un des lieux les plus fréquentés à la fois par les prostituées, les femmes, et par les homosexuels, et donc que tout cela crée en fait un espèce d'itinéraire, de parcours, et on peut très bien imaginer qu'on commence dans un lieu de Paris et que, comme aujourd'hui, finalement, on aille d'un endroit à un autre, d'un parc à une galerie, à un bar, et l'urinoir se trouve finalement très bien placé dans cette espèce de parcours.
Alors, je vais vous proposer, avec Séverine Liadard, de quitter cette rive droite, dont vous dites, Régis Rovenin, que c'est tout de même la rive la plus fréquentée par les homosexuels, très curieusement.
À 90%, on peut dire, 90% des établissements se trouvent rive droite, effectivement.
Pour terminer notre promenade, du côté de la rive gauche, nous allons aller du côté de la rue Jacob et de Montparnasse pour évoquer un autre type d'homosexualité. Nous avons donc passé la Seine pour arriver rive gauche dans une rue extrêmement calme, si ce n'était les travaux qui s'y déroulent, donc la rue Jacob, donc une rue du quartier latin. Donc on est à l'intérieur de la cour du 20 rue Jacob. Florence Tamay, vous avez voulu nous amener ici pour compléter justement cet itinéraire qui était très masculin, parce qu'ici se tenait le salon de Nathalie Marnet.
Oui, tout à fait, puisqu'on a parlé d'homosexualité masculine, on pourrait parler un peu d'homosexualité féminine. Il est vrai que c'est toujours un problème pour l'historien. C'est la relative limite des sources concernant l'homosexualité féminine. On trouve très peu de choses. L'homosexualité féminine n'était pas condamnée par la loi, mais à la différence des homosexuels, les lesbiennes draguaient, semble-t-il, très peu dans les lieux publics, ou en tout cas dans les parcs. Et l'enfermement, ou en tout cas le repli sur la vie privée, rend très difficile d'aborder cette question. Donc là, on a un des lieux les plus visibles de Paris, en même temps qui n'est certainement pas représentatif de la vie des lesbiennes parisiennes. Il s'agit du salon de Nathalie Barnet. Nathalie Barnet, qui est d'origine américaine et qui est venue s'installer en France, et son salon débute véritablement en 1910. Et elle va tenir salon rue Jacob à peu près jusqu'au début de la guerre. Nathalie Barnet, c'est une poétesse, c'est une intellectuelle aussi. Elle écrit beaucoup sur le féminisme, notamment. Et elle va accueillir ici aussi bien les femmes les plus célèbres de son temps que des écrivains, des hommes. On peut mentionner Paul Morand, Paul Valéry, Pierre Louis, par exemple, qui viendront lui rendre visite. Mais c'est surtout les femmes qui font le charme du lieu. On peut parler de Colette, bien sûr. On peut parler également de la romancière anglaise Radcliffe Hall, qui est très célèbre après la Première Guerre mondiale pour son livre Le Puits de solitude. Mais on va trouver également des grandes courtisanes, des journalistes, Janet Flanner. C'est un milieu très, très cosmopolite, on le disait tout à l'heure, parce qu'il y a des Françaises, il y a des Américaines, il y a des peintres, des écrivaines, des poétesses.
Et ce qui est intéressant aussi, Florence Tamay, c'est que Nathalie Barnet, elle revendique son homosexualité. Enfin, c'est pas quelque chose qui est caché. Elle le présente pas comme un vice. Elle dit voilà, c'est mon choix sexuel. Enfin, c'est pas quelque chose qu'elle cache.
Non, ce n'est pas quelque chose qu'elle cache. En même temps, c'est pas une femme scandaleuse à dessein. C'est une grande dame. Très conservatrice d'ailleurs par certains aspects, notamment politiques, mais elle affirme très clairement sa sexualité dans ses poèmes à ses différentes amies, que ce soit la courtisane Liane de Pougy, la poétesse Renée Vivien, ensuite la peintre Romaine Brooks. Donc elle est très ouverte sur ces questions. En même temps, elle défend une certaine vision de l'homosexualité féminine, et notamment elle est tout à fait opposée à toute masculinisation de la femme. Elle aime la femme féminine, qui renvoie justement à ce fameux idéal antique, saphique, qu'elle a contribué à populariser.
On peut dire aussi, Florence Tavannes, que c'est un milieu très mondain, hein, c'est quand même une aristocratie, qui peut-être plus facilement peut assumer aussi son homosexualité.
C'est une aristocratie, oui, beaucoup de femmes sont issues d'un milieu très aisé, c'est une bourgeoisie, c'est un milieu artiste et intellectuel. Donc ce sont des femmes qui sont déjà en marge d'une certaine manière et qui ont la chance, pour beaucoup d'entre elles, d'être indépendantes. Donc cela leur permet en effet d'assumer leur choix avec une visibilité que d'autres ne peuvent pas se permettre. Bon, certaines sont en rupture totale avec leur famille. Et s'il y a beaucoup d'Américaines, c'est parce qu'elles ont choisi de quitter un milieu familial qui était trop contraignant.
Trop puritain.
Trop puritain également. Et de venir vivre à Paris, qui a à l'époque une réputation de ville de plaisir, de ville de liberté. Bon, il faut être très prudent parce que, comme je le disais, c'est un milieu qui peut être aussi très conservateur, même s'il est très ouvert sur les questions sexuelles.
Mais alors ça veut dire néanmoins que si on veut descendre l'échelle sociale, c'est-à-dire descendre en dessous de ces familles relativement fortunées qui peuplent cette belle cour de la rue Jacob, qu'on n'a pas encore décrite, mais qui est un immeuble tout à fait classique, avec en particulier dans la cour un petit attique d'entrée, donc avec des colonnes très classiques, et puis aussi de très beaux arbres centenaires, peut-être pour certains d'entre eux. Donc si on veut descendre l'échelle sociale, Florence Tavannes, on a beaucoup de mal à savoir ce qui se passait en dessous de ces classes un peu privilégiées, avec une certaine visibilité. Comment peut-on faire en tant qu'historienne ou qu'historien pour pouvoir aller un peu plus bas, un peu plus finement, comme a pu le faire pour l'homosexualité masculine Régis Rovenin ?
C'est quelque chose de très compliqué. Soit on a accès à des témoignages justement d'intellectuels, soit d'artistes qui pour certaines fréquentaient des milieux quand même beaucoup plus populaires que Nathalie Barnet. Donc tout le milieu des ateliers d'artistes qu'évoque notamment Marie-Jo Bonnet est une bonne piste. Il y a la question des bars, il y a des bars lesbiens, mais il est vrai qu'à la Belle Époque, ils sont a priori en nombre extrêmement limité. C'est davantage dans les années 20 qu'on va voir des bars lesbiens se créer. Il semble que ce soit vraiment des soirées intimes qui vont permettre aux femmes de se rencontrer. Et ça, à part si on a accès à des journaux, à des lettres, on a guère de possibilités. Et là encore, il faut faire la part de la censure familiale. Combien de lettres et de journaux intimes ont été détruits par la famille par la suite.
Est-ce que le lesbianisme, l'homosexualité féminine est moins stigmatisée que l'homosexualité masculine ? Est-ce qu'elle est vraiment prise au sérieux par la société ? Est-ce qu'on ne considère pas toujours que c'est des petites incartades, qu'en fait ces femmes sont hétérosexuelles ? Et d'ailleurs, certaines d'entre elles se marient, certains hommes aussi, hein, c'est pas que... Mais est-ce qu'au niveau des représentations, au niveau de la société, est-ce que ça a le même impact ?
À vrai dire, il y a deux types d'attitudes. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous évoquez, c'est-à-dire une espèce soit d'indifférence vis-à-vis de l'homosexualité féminine, soit on estime que c'est un passage propre à l'adolescence, finalement des amitiés de collège avant le mariage. Soit on imagine que ce sont des femmes malades que l'on va envoyer chez le médecin, chez le psychiatre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le cas de la France. Il y a une espèce de fascination aussi pour l'homosexualité féminine et toutes sortes de romanciers mettent en scène des lesbiennes depuis Balzac avec la fille aux yeux d'or. On peut évoquer Baudelaire avec les femmes damnées. Pierre-Louis, Aphrodite, etc. Il y a énormément de romans qui jouent sur l'érotisme des relations féminines, sur une image de la lesbienne extrêmement sensuelle qui n'est pas sans voyeurisme, parce que finalement ce sont des hommes qui écrivent pour un plaisir masculin. Ça n'a pas forcément toujours grand-chose à voir avec la réalité lesbienne.
Oui, alors justement, c'est une des questions intéressantes, c'est qu'on croit pouvoir percevoir, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, la naissance de certains codes et de certains apprentissages, de certaines images, comme cela vous évoquiez tout à l'heure, Régis Rovenin, dans notre étape précédente, la question des marins, par exemple. On croit voir poindre, comme cela, des personnages qui vont ensuite courir dans les mythologies et les imaginaires homosexuels ou hétérosexuels, comme vient de l'évoquer Florence Tavannes, qui naissent justement au tournant de ce 19e et de ce 20e siècle. le Régis Revenin ?
Ben, il y a la figure effectivement du marin, mais il y a aussi la figure du prolétaire ou de l'apache à la Belle Époque. Et Daniel Guérin, donc plutôt dans les années 20-30, parle de la figure effectivement du jeune prolétaire qui attire les homosexuels. Voilà.
Mais ça veut dire aussi qu'il y a une forte puissance créatrice, pourrait-on dire, dans ce tournant de siècle, pour que cette contrainte que l'on imagine, cette contrainte sur les corps, et en particulier dans les pays anglo-saxons, que l'on imagine comme une contrainte victorienne, etc., produise comme cela un imaginaire qui va de romans érotiques, vous citiez Pierre-Louis tout à l'heure, Florence Tamagne, en film érotique qui se tourne à peu près à la même époque, l'imaginaire de la servante, de la bonne, ou encore des femmes entre elles, par exemple, courir jusqu'au porno contemporain, d'une certaine façon.
Il y a des lignées que l'on peut peut-être tracer. D'une certaine manière, je pense que pour les femmes, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a des figures récurrentes, c'est-à-dire justement la femme fatale, la lesbienne suicidaire, la maîtresse de pensionnat, celle qui va séduire les jeunes adolescentes et les mener à leur perte.
Donc, qui sera transformée quelquefois dans l'imaginaire plus tardif. En gardienne de prison, par exemple.
Par exemple, aussi. Tout à fait. Mais ça, on a des exemples déjà dans les années 20 aussi. Donc, ce sont des schémas, des stéréotypes. En même temps, vous avez des lesbiennes qui vont vivre une vie parfaitement normale et intégrée. On n'est pas très loin de la rue de l'Odéon. On peut évoquer les deux libraires qui ont été si bien présentés, rappelés par leur Murat. Adrienne Monnier qui va fonder une espèce de librairie maison de prêt. Et à quelques numéros de là, Sylvia Beach, sa compagne qui fonde Shakespeare et compagnie, elles sont parfaitement intégrées dans le milieu de l'édition, elles ont une vie de couple parfaitement normale, elles ne font pas de vagues, elles fréquentent les milieux lesbiens mais sans forcément sortir énormément, elles ont une vie parfaitement normale.
Régis Revenin.
Je veux juste préciser que pour faire l'histoire, en fait, la différence fondamentale pour moi entre l'histoire des homosexuels et des lesbiennes, c'est que justement, les lesbiennes, c'est très délicat de faire une histoire des anonymes, en quelque sorte, et par exemple des pratiques sexuelles, puisque d'une manière générale, la sexualité des femmes est niée à l'époque, et donc il est très délicat, évidemment, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir analyser les pratiques sexuelles lesbiennes, voilà.
Donc, contrairement à ce que vous avez fait vous-même pour cette maîtrise transformée en livre tout récemment, je rappelle son titre, Régis Revenin, Homosexualité et prostitution masculine à Paris de 1870 à 1918 à l'Harmattan, et le titre exact de votre livre, Florence Tamagne.
C'est Histoire de l'homosexualité en Europe, Berlin, Londres, Paris, 1919-1939.
À l'Univers historique, l'excellente collection du Seuil. Merci encore à tous les deux d'avoir bien voulu nous guider jusqu'à cette rue Jacob en partant des Champs-Élysées un peu plus loin. Du côté de la rive droite. Merci encore.
Merci.
Merci.
Autre jour, je rencontre un vieil ami de province. Je lui dis, tu tombes bien, mon prince. De Paris, je vais te montrer toutes les curiosités.
Demain, nous conclurons notre histoire des sexualités dans la Fabrique de l'Histoire avec la rediffusion du débat que nous avons enregistré à l'hiver dernier dans le cadre des forums France Culture à la Sorbonne. Autour du thème, les révolutions sexuelles sont-elles le moteur de l'histoire ?
Je te ferai voir une galerie qui certainement va t'épater. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Tu pourras sans te déranger voir le quai de ma rue et le trou dans mon quai. Ici-bas, la joie n'est qu'un leurre. Et l'on m'a dit tout à l'heure que les travaux de terrassement vont se terminer prochainement. C'est pas drôle pour moi qu'on avait l'habitude. Et ça va me paraître rude quand le dernier coup de pelle donné, le trou de mon quai sera bouché.